Chapitre 11. L'agent Shane Lyons avait accepté de retrouver Bobby et Didi au QG de Roxbury à 18h. Ça leur laissait le temps de s'arrêter pour dîner. Bobby avait commandé un énorme sandwich mixte avec double portion de tout. Didi couvait un bol de bouillon de volaille au vermicelle, généreusement saupoudré de biscuits salés et miettés. Une télé braillait dans le coin de la sandwicherie. Le journal de 17h ouvrait son édition sur le meurtre d'Alston Brighton et la disparition de Sophie Marissa Leoni. Le visage de la fillette remplissait l'écran, yeux bleus vifs, grand sourire édenté. Sous la photo défilait le numéro spécial à composer ainsi que la promesse d'une récompense de 25 000 $ pour tout renseignement permettant de la localiser. Didi ne pouvait pas regarder ce bulletin. Trop déprimant. 8 heures après la première demande d'intervention, il ne progressait pas assez vite. Un voisin avait affirmé avoir vu Brian Darby partir au volant de sa GMC Denali blanche peu après 16 heures la veille. Ensuite, rien. Personne ne l'avait vu. Ni appel sur la ligne fixe, ni message sur son portable. Où Brian Darby était-il allé? Qu'avait-il fait? Qui avait-il pu voir? Personne n'en avait la moindre idée. Ce qui les ramenait à la petite Sophie. La veille, on était samedi. Ni école, ni invitation à jouer avec des amis, ni sortie dans le jardin, ni passage dans le champ des caméras de surveillance, ni miraculeuse avalanche de renseignements au numéro spécial. Vendredi, on était venu la chercher à l'école à 15 heures. Après, c'était le brouillard le plus total. Tessa Leoni avait pris son service à 23 heures le samedi soir. Trois voisins avaient vu son véhicule de patrouille s'en aller. L'un d'eux avait remarqué qu'il était revenu après 9 heures le lendemain matin. Le central avait toute une liste d'appels reçus de l'agent Leoni qui confirmait qu'elle avait bien effectué sa patrouille avant de passer déposer les derniers PV peu après 8 heures le dimanche matin. Heure à laquelle la famille tout entière avait disparu de l'écran radar. Les voisins n'avaient rien vu, rien entendu, ni dispute, ni cri, ni même coup de feu, ce que Didi trouvait étrange parce qu'elle ne voyait pas bien comment on pouvait ne pas entendre 3 balles tirées par un 9 mm. Peut-être que les gens avaient le don de n'entendre que ce qu'ils avaient envie d'entendre. Ça paraissait le plus vraisemblable. Sophie Leoni était portée disparue depuis 10 heures du matin. Le soleil était couché, les températures dégringolaient et on annonçait 10 à 15 cm de neige. La journée avait été mauvaise, la nuit serait pire. « Il faut que je passe un coup de fil, » dit Bobby. Il avait fini son sandwich, froissé l'emballage. « Prévenir Annabelle que tu vas rentrer tard ?» Il montra la rue de l'autre côté de la vitrine où les premiers flocons commençaient à tomber. « Je me trompe ? Ça ne la dérange pas, tes horaires ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? C'est le boulot qui veut ça. » « Et Karina ? Elle va bientôt se rendre compte que son papa disparaît et ne rentre pas toujours pour jouer. » Et puis, il y aura les concerts que tu manqueras, les spectacles, les matchs de foot. J'ai marqué un but pour l'équipe, papa, mais tu n'étais pas là. Bobby la regarda avec curiosité. C'est le boulot qui veut ça, répéta-t-il. C'est vrai, il y a des fois où ça fait chier, mais c'est pareil avec la plupart des boulots. Didi se renfrogna. Elle baissa les yeux, remua vaguement sa soupe. Les biscuits secs avaient absorbé le liquide et s'étaient transformés en bouillasse. Elle n'avait plus envie de manger. Elle était fatiguée, découragée. Elle pensait à une petite fille qu'on ne retrouverait sans doute pas vivante. Elle pensait à la vieille Madame Ennis, qui avait expliqué combien l'agent Leoni avait du mal à concilier travail, maison et enfant. Peut-être que les femmes qui travaillaient dans les forces de l'ordre n'étaient pas destinées à connaître les joies de la vie de famille. Peut-être que si l'agent Leoni n'avait pas tenté le coup du mari et de la maison avec jardin, Didi n'aurait pas été saisie ce matin de la disparition d'une mignonne et innocente enfant. Seigneur, qu'est-ce qu'elle était censée dire à Alex? Qu'est-ce qu'elle était censée ressentir, elle, l'enquêtrice ambitieuse qui était accro à son boulot et qui en avait conscience? Elle remua une dernière fois sa soupe et la repoussa. Bobby était toujours planté là, comme s'il attendait qu'elle dise quelque chose. Tu m'as déjà imaginée en maman? Non. L'idée ne t'est même jamais venue? Ne pose pas la question si tu ne veux pas la réponse. Moi, je ne me suis jamais imaginée en maman. Les mamans chantent des berceuses, se promènent en permanence avec un paquet de céréales à la main et font des grimaces pour le plaisir de faire sourire leur bébé. Moi, je sais seulement faire sourire mon équipe. Et pour ça, il faut du café chaud et des beignets au sirop d'érable. Karina adore le jeu de coucou. Ah bon? Ouais. Je cache mes yeux et j'enlève ma main d'un seul coup en criant « Coucou !» Elle pourrait faire ça pendant des heures. Et j'ai découvert que moi aussi. Qui l'eût cru? Didi mit sa main devant ses yeux et la retira d'un seul coup. Bobby disparut, Bobby réapparut. À part ça, ce n'était pas l'extase. « Je ne suis pas ton bébé, » dit Bobby en guise d'explication. « Nous sommes génétiquement programmés pour avoir envie de rendre nos enfants heureux. » Karina fait un grand sourire et... « Je ne peux même pas te dire ce que je ressens. » « Mais ça me récompense de ma journée et je suis prêt à refaire n'importe quelle clownerie pour lui redonner ce visage. » « Comment te dire ? C'est plus fou que de l'amour. Plus profond que de l'amour. C'est... être parent. » Je crois que Brian Darby a assassiné sa belle-fille. Je crois qu'il a tué Sophie et que Tessa Léonie l'a abattue en rentrant chez elle. Je sais. Si nous sommes génétiquement programmés pour avoir envie de rendre nos enfants heureux, comment se fait-il que tant de parents fassent du mal à leurs enfants ? Les gens sont cons. Et cette idée t'aide à te lever le matin ? Je ne suis pas obligée de passer ma vie avec les gens. J'ai Annabelle, Karina, ma famille et mes amis. Ça me suffit. Vous aurez une deuxième Karina ? J'espère. Bobby Dodge, ou l'éternel optimiste. À ma façon. Alors comme ça, ça devient sérieux avec Alex ? C'est toute la question, j'imagine.
Tu es heureuse avec lui ?
Je ne suis pas le genre heureuse.
Alors, tu te sens bien avec lui ?
Elle repensa à sa matinée vêtue de la chemise d'Alex, assise à la table d'Alex. Je ne verrai pas d'inconvénient à passer plus de temps avec lui.
C'est un début. Bon, tu m'excuseras, je vais appeler ma femme et sans doute faire des gousi-gousi à ma fille,
dit Bobby en s'éloignant de la table. Je peux écouter ?
Certainement pas.
Ce qui n'était pas plus mal parce qu'elle avait de nouveau des crampes d'estomac et qu'elle pensait à un bout de chou en layette bleue ou en layette rose, en se demandant à quoi pourrait ressembler un petit Alex ou une petite Didi. Si elle serait capable d'aimer un enfant autant que Bobby aimait manifestement Karina, et si l'amour seul pouvait suffire. Parce que la vie de famille sourit rarement aux policières. Demandez à Tessa Léonie. Le temps que Bobby finisse son coup de fil, la neige du début de soirée avait transformé les rues en un vaste embouteillage. Même avec un gyrophare et sirène sur tout le trajet, il leur fallut plus de 40 minutes pour rejoindre Roxbury. Encore 5 minutes pour trouver à se garer, et l'agent Shane Lyons poireautait depuis un bon quart d'heure quand ils entrèrent dans le hall du QG. Le gaillard baraqué se leva à leur entrée, encore en uniforme, le chapeau bas sur le front, les deux mains dans des gants de cuir. Bobby fut le premier à le saluer, puis Didi. Passer dans une salle d'interrogatoire aurait semblé peu courtois, alors Didi leur trouva une salle de réunion inoccupée. Lyons prit un siège, enleva son chapeau mais garda son manteau et ses gants. Apparemment, il tablait sur une conversation brève. Bobby lui offrit un coca qu'il accepta. Didi s'en tint à de l'eau, tandis que Bobby se réchauffait les mains autour d'un café noir. Ses préliminaires réglés, ils passèrent aux choses sérieuses. « Vous n'avez pas eu l'air surpris d'avoir de nos nouvelles ?» commença Didi. Lyon haussa les épaules, fit tourner son coca entre ses doigts gantés.
« Je savais que mon nom sortirait, mais il fallait d'abord que je fasse mon travail de représentant syndical. C'était ma première responsabilité sur place. » « Depuis combien de temps connaissez-vous l'agent Léonie ?»
demanda Bobby.
« 4 ans. Depuis son arrivée à la caserne. J'ai été son tuteur, c'est moi qui l'ai supervisé pendant ses 12 premières semaines de patrouille. »
Lyons prit une gorgée de soda. Il semblait mal à l'aise, avait tout du témoin réticent. « Vous travailliez étroitement avec elle ?» demanda Didi.
« Les 12 premières semaines, oui. Mais ensuite, non. Les agents patrouillent en solo. »«
Vous vous voyez souvent ?»«
Peut-être une fois par semaine. Les agents en service essaient de se retrouver pour prendre le café ou le petit déjeuner, histoire de faire une pause, d'entretenir la camaraderie. Des fois, il y a même des gars de la police municipale qui nous rejoignent, dit-il en regardant Didi.
« Pas possible !» répondit-elle en faisant de son mieux pour paraître horrifiée. Cela arracha un sourire à Lyons.
« Il faut bien qu'on se serre les coudes, pas vrai? Alors autant cultiver le dialogue. Cela étant, les agents sont seuls pendant l'essentiel de leur service. Surtout les nuits tard. En tête à tête avec leur pistolet radar et une autoroute pleine de gens qui ont trop bu.
« Et à la caserne ?» demanda Didi. « Est-ce que Tessa et vous, vous voyez, mangiez un morceau après le travail ?»«
Non. La voiture de patrouille tient lieu de bureau aux agents. On ne repasse à la caserne que si on a procédé à une interpellation, si on doit traiter une conduite en état d'ivresse, ce genre de choses. Là encore, on passe l'essentiel de notre temps sur la route.
« Mais vous vous épaulez, » intervint Bobby, « surtout en cas d'incident. »
« Bien sûr. La semaine dernière, l'agent Léonie a coincé un type qui conduisait en état d'ivresse sur le pike. Alors je suis venu lui filer un coup de main. Elle a emmené le type à la caserne pour lui faire un éthylotest et lui lire ses droits. Je suis resté avec la voiture, en attendant que la fourrière l'embarque. On s'entraide. Mais on n'est pas vraiment resté à papoter conjoint et enfant pendant qu'elle chargeait le mec ivre dans sa bagnole. »
Lyons lança un regard perçant à Bobby.
« Vous devez vous rappeler ce que c'est. »«
Parlez-nous de Brian Darby, » reprit Didi pour détourner le regard de Lyons vers elle. L'agent ne répondit pas tout de suite, mais pinça les lèvres comme en proie à une hésitation.
« D'une manière ou d'une autre, je suis dans la merde, » dit-il brusquement.
« Pourquoi ça ?» demanda Bobby impassible.
« Écoutez, » dit Lyons en reposant son soda. « Je sais que je suis mal sur ce coup-là. Je suis censé être bon juge des caractères, ça fait partie du métier. Mais ce qui est arrivé entre Tessa et Brian... Bon, soit je suis le roi des abrutis qui ne savait pas que son voisin était incapable de se maîtriser... Soit je suis le connard qui a maqué sa collègue avec un type qui battrait sa femme. Sincèrement. Si j'avais su, si je m'étais douté.
Commençons par Brian Darby, dit Didi. Que saviez-vous de lui?
Je l'ai rencontré il y a 8 ans. Nous faisions tous les deux partie de l'équipe de hockey du quartier. On jouait ensemble un vendredi soir sur deux. Il avait l'air sympa. Je l'ai invité 2 ou 3 fois à dîner et prendre une bière. Il avait toujours l'air sympa. Il avait un emploi du temps bizarre en tant que marin, donc il comprenait aussi mon boulot. Quand il était dans les parages, on se voyait, on allait jouer au hockey, faire du ski, marcher une journée. Il aimait le sport, et moi aussi.
Brian était du genre actif, commenta Bobby.
Oui, il aimait bouger. Tessa aussi. Franchement, je les voyais bien ensemble. C'est pour ça que je les ai présentés l'un à l'autre. Je me disais que s'ils ne sortaient pas ensemble, ils pourraient toujours devenir camarades de randonnée, quelque chose.
« Vous les avez présentés l'un à l'autre, » répéta Didi.
« Je les ai invités en même temps à un barbecue. Et je les ai laissés se débrouiller. Bon, je suis un mec. On ne va pas s'en mêler plus que ça non plus. »«
Ils sont repartis ensemble ?» demanda Bobby.
« Non, » répondit Lyons après un temps de réflexion. Ils se sont donné rendez-vous pour prendre un verre, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais en un rien de temps, Tessa et sa fille ont emménagé chez lui. Donc, j'imagine que ça a marché.
Vous avez assisté au mariage?
Non. Je n'ai même pas été prévenue. Je crois que j'ai dû brusquement remarquer un anneau au doigt de Tessa. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'il s'était marié. Ça m'a plutôt surpris. Je me suis dit que c'était un peu rapide. Et puis c'est vrai que j'ai été étonnée de ne pas avoir été invitée, mais bon, on n'était pas non plus proches à ce point-là, je ne me mêlais pas à ce point-là de leur vie. »
Il semblait important à ses yeux de bien établir ce fait. Il n'était pas proche à ce point-là du couple, il ne se mêlait pas à ce point-là de leur vie. « Est-ce que Tessa parlait de son couple ?» demanda Didi.
« Pas à moi.
À d'autres ?»
Je ne peux répondre que pour moi.
Et même ça, vous ne le faites pas, constata brutalement Didi.
Hé, j'essaie de vous dire la vérité. Je ne passe pas mes dimanches à déjeuner chez Brian et Tessa, ni à les inviter chez moi après la messe. On était amis, c'est clair, mais on menait chacun nos vies. Zut, la moitié de l'année, Brian n'était même pas là.
Donc, dit lentement Didi, votre copain de hockey, Brian Darby, prend la mer la moitié de l'année en laissant une collègue se débrouiller seule avec une maison, un jardin et un jeune enfant, et vous passez votre chemin. Vous avez votre vie. Inutile de vous embarrasser de la leur. L'agent Lyons rougit. Il regarda son coca, sa mâchoire carrée visiblement crispée. Beau mec, si on aimait les teints sanguins, se dit Didi. Ce qui amenait la question suivante. Est-ce que Brian Darby s'était mis à la gonflette parce que sa femme portait un flingue? Ou parce qu'elle commençait à solliciter un collègue bien foutu pour qu'il l'aide à la maison?
« Il se pourrait que j'aie réparé la tondeuse, » marmonna Lyons.
Didi et Bobby attendirent.
« Le robinet de la cuisine fuyait. J'ai jeté un œil, mais ce n'était pas dans mes cordes, alors je lui ai donné le nom d'un bon plombier. »
« Où étiez-vous hier soir ?» demanda posément Bobby.
« En patrouille !»
s'exclama Lyons en relevant brusquement la tête.
« Bon sang !» Je ne suis pas rentré chez moi depuis 11 heures hier soir. J'ai 3 enfants, vous savez, et si vous croyez que je ne vois pas leur visage chaque fois que la photo de Sophie passe à la télé... Putain, Sophie n'est qu'une gosse. Je la vois encore rouler dans l'herbe de mon jardin, et l'an dernier, grimper au vieux chêne. Même mon fils de 8 ans n'arrivait pas à la suivre. Un vrai petit singe, celle-là. Et ce sourire... Et... Oh, merde.
L'agent Lyons se cacha le visage dans la main. Il semblait incapable de parler, alors Bobby et Didi lui accordèrent un instant. Lorsqu'il fut en état, il baissa la main, grimaçant.
« Vous savez comment on appelait Brian ? »
demanda-t-il brusquement.
« Son surnom, dans l'équipe de hockey. »«
Non. »«
Monsieur Cœur Tendre. » Son film préféré, c'était Pretty Woman. Quand Duke est mort, son chien, il a écrit un poème pour le publier dans le journal local. Il était comme ça. Alors non. Je ne me suis pas trop posé de questions avant de le présenter à une collègue mère de famille. Quoi? Je pensais rendre service à Tessa.
Vous jouiez encore au hockey avec Brian? Demanda Bobby.
Plus beaucoup. Mon emploi du temps a changé, je travaille presque tous les vendredis soirs.
Brian a l'air plus baraqué maintenant qu'au moment de son mariage, comme s'il avait fait de la gonflette.
Je crois qu'il s'était inscrit dans un club de gym ou quoi. Il parlait de faire des haltères.
Vous faisiez de la musculation avec lui ? Lyons fit signe que non. Le beeper de Didi sonna. Elle jeta un œil à l'écran, vit que c'était le labo de l'identité judiciaire et s'excusa. Lorsqu'elle sortit de la salle de réunion, Bobby cuisinait Lyons sur le programme d'entraînement de Brian Darby et la possibilité qu'il ait pris des produits. Didi sortit son téléphone portable pour composer le numéro du labo. Ils avaient les premiers résultats concernant la GMC Denali de Brian. Didi écouta, hocha la tête et raccrocha juste à temps pour se précipiter dans les toilettes pour dames, où elle réussit à ne pas rendre sa soupe, mais seulement après s'être passé une grande quantité d'eau froide sur le visage. Elle se rinça la bouche, se passa encore de l'eau froide sur le dos des mains. Puis elle examina son reflet blême, et se mit en garde. Que ça lui plaise ou non, elle allait le faire. Survivre à cette soirée. Retrouver Sophie Léonie. Et ensuite, rentrer à la maison auprès d'Alex parce qu'il y avait 2 ou 3 choses dont il devait discuter. Didi rentra au pas de charge dans la salle de réunion. Elle n'attendit pas et sortit tout de suite la grosse artillerie parce que Lyons était en train de les faire lanterner et que franchement, la plaisanterie avait assez duré. Rapport préliminaire sur la voiture de Brian Darby, dit-elle sèchement. Elle posa les mains à plat sur la table devant l'agent Lyons et se pencha jusqu'à n'être plus qu'à quelques centimètres de lui. On a retrouvé une pelle télescopique cachée dans un rangement du coffre encore pleine de terre et de fragments de feuilles. Lyons ne dit rien. On a aussi trouvé un désodorisant tout neuf, parfum melon, le genre qu'on branche sur une prise.
Les scientifiques du labo ont trouvé ça bizarre, alors ils l'ont débranché. »
Lyons ne dit rien. L'odeur est réapparue en moins d'un quart d'heure.
Très forte, ils m'ont dit.
Très reconnaissable. Mais comme ce sont des scientifiques, ils ont fait venir un chien détecteur de cadavres, histoire d'être sûr.
L'agent pâlit.
Décomposition, agent Lyons.
Traduction. Les sorciers du labo sont certains qu'un cadavre a été déposé dans le coffre de la voiture de Brian Darby au cours des dernières 24 heures. Vu la présence de la pelle, ils supposent aussi que le corps a été emporté vers un lieu inconnu et enterré.
Brian a une autre maison? Une cabane au bord d'un lac, un pavillon de chasse, un chalet de ski?
Peut-être que si vous commenciez enfin à nous parler, on pourrait au moins ramener le corps de Sophie chez elle.
Oh non, dit Lyons toujours plus pâle.
Où Brian a-t-il emmené sa belle-fille?
Je ne sais pas. Il n'a pas d'autre maison. Rien dont il m'aurait parlé, en tout cas.
Vous les avez laissés tomber. Vous avez présenté Brian Darby à Tessa et Sophie. Et maintenant, Tessa est en compote à l'hôpital et la petite Sophie est très probablement morte. C'est vous qui êtes à l'origine de cette histoire. Alors secouez-vous et aidez-nous à retrouver le corps de Sophie. Où a-t-il pu l'emmener? Qu'a-t-il pu faire? Dites-nous tous les secrets de Brian Darby.
Il n'avait pas de secrets, je vous jure. Brian était un type réglo. Il naviguait sur la Grande Bleue et rentrait chez lui retrouver sa femme et sa belle-fille. Jamais je ne l'ai vu hausser le ton, encore moins lever la main.
Alors, que s'est-il passé?
Un temps.
Encore un long soupir tremblé.
Il y a une autre hypothèse,
dit brusquement Lyons. Il les regarda tous les deux toujours livides et ses mains se pliaient et se dépliaient autour de son coca.
Je ne trahis pas vraiment un secret, je veux dire. Vous l'apprendrez tôt ou tard du lieutenant-colonel Hamilton. C'est lui qui me l'a dit. Et puis, ça figure dans le dossier de Tessa.
Lyons, crachez le morceau ! S'impatienta Didi. Alors il s'exécuta.
Ce qui s'est passé ce matin... Bon. Disons simplement que ce n'est pas la première fois que l'agent Léonie tuait un homme.